On continue notre série du mois de novembre. On connaît le mois de novembre comme étant le mois du souvenir, donc on veut se souvenir de cette réforme. Comme l'a fait la semaine dernière notre frère Adama qui a donné le premier de cette série sur notre réforme qui a 500 ans. À partir de la date où Martin Luther a affiché ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Alors, semaine dernière, on a entendu que l'Écriture seule était suffisante. Sola, Scriptura. Et Adama nous a présenté deux personnages historiques de la Réforme, celui de John Wycliffe et Martin Luther, bien entendu. Alors, on va continuer dans cette foulée et commencer avec cette capsule historique. Alors, c'est ce qu'on veut faire en même temps, de traiter chacun des solas, des cinq solas, et de couvrir une partie des faits saillants de cette période qui a marqué l'histoire de l'Église. Alors, nous sommes au début du 16e siècle, siècle qui est marqué par un renouveau intellectuel et artistique. C'est l'extension de la Renaissance qui est née en Italie et qui traverse, qui balaye, qui s'étend sur tout le reste de l'Europe. Et c'est aussi un siècle qui est marqué par les grandes découvertes. Huit ans avant le début de ce siècle, Christophe Colomb venait de découvrir l'Amérique en 1492 et Jacques Cartier allait bientôt poser le pied à Gaspé pour y planter une énorme croix le 24 juillet 1534, soit 17 ans après que Luther ait affiché ses thèses sur les portes de l'Église en Allemagne. La réforme prenait officiellement de plus en plus de momentum et on conteste l'autorité des papes et la doctrine du catholicisme. En 1545 débute la première session du fameux Concile de Trente, convoqué par le pape Paul III en réponse aux demandes, aux requêtes qui ont été formulées par Martin Luther. Un concile qui allait s'étaler sur une période de 18 ans et qui incluait 25 sessions. Si vous voyez au centre de l'image du concile, on voit les gens qui prenaient les notes, les greffiers. Imaginez, 18 ans à 25 sessions, on peut passer sa carrière de greffier juste sur un concile. Tout un événement. Et je veux vous présenter ce matin un autre réformateur, un contemporain de Luther, qui vivait, lui, en Angleterre et qui a passé les dernières années de sa vie, de son ministère, sous le règne de la reine catholique, oui, en Angleterre, la reine catholique Marie Ière, issue de la fameuse dynastie Tudor. Elle est la fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon. Elle fut la reine d'Angleterre et d'Irlande de 1554 jusqu'à 1558. Les 4 ans, c'est pas long, vous allez dire, mais c'était assez. La reine Marie Ière fut marquée par ses tentatives qui visaient à restaurer le catholicisme après les règnes protestants de son demi-frère et de son père. On estime que près de 300 réformateurs et dissidents du régime furent brûlés vifs lors des 4 années de règne seulement. Cette brutale répression lui valut le surnom de Marie la sanglante, Bloody Mary. Hein? Pensez-y deux fois quand vous allez en boire un. Le règne catholique prit fin après sa mort, succédé par sa demi-sœur cadette, Élisabeth Ière. Alors, notre personnage de ce matin est Thomas Cranmer, très méconnu. Mais pour les amateurs d'histoire en Angleterre, c'est bien connu. Alors, Thomas Cranmer était l'archevêque de Canterbury durant les règnes d'Henri VIII, d'Édouard VI, et évidemment de Marie Ière. C'est lui qui prononça le divorce d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon et qui entraîne la séparation de l'Église d'Angleterre et du Saint-Siège à Rome. Il fut alors l'un des principaux artisans de la réforme doctrinale, la réforme anglaise, et l'architecte des premières structures doctrinales et liturgiques de l'Église d'Angleterre, anglicane. Après le couronnement de la catholique Marie Ière, Thomas Cranmer fut jugé pour trahison et hérésie, évidemment. Emprisonné durant plus de 2 ans et sous les pressions des autorités religieuses, il se rétracta par écrit en plus d'un discours public qu'il devait faire pour prononcer ses rétractations devant les gens à qui il avait déjà enseigné. Alors, il se rétracta par écrit et il devait aller prononcer ce discours devant ceux qu'il connaissait ou il avait enseigné. Et pendant ce discours, il y a eu un coup de théâtre. Thomas change d'idée et retire ses rétractations. Et même qu'il prononça le pape comme un hérétique, un antéchrist, et qu'il devait lui-même se retirer, se rétracter. Et il disait que si je devais être brûlé vif au bûcher, il dit « ma main droite devrait être brûlée en premier parce que c'est elle qui a été l'instrument qui a signé ma rétractation par écrit. » Alors, avant d'être saisi par les gardes, il est emmené et il continua de prêcher l'Évangile jusqu'à ce qu'il soit attaché au poteau du bûcher pour y être brûlé juste à l'extérieur de l'université. Et on dit également, on raconte que exactement comme il l'avait promis, lorsque les flammes commençaient à se lever, il sorta sa main droite pour qu'elle soit brûlée en premier avant que toutes les flammes l'embrasent. Et on raconte également qu'il aurait prononcé les mêmes paroles qu'Étienne, que l'on lit dans Acte 7. Hein? « Seigneur, reçois mon esprit. » Il était fidèle jusque dans la mort. Et un fait intéressant également par rapport à toute cette répression qu'on avait contre les protestants. Vous savez, il y en avait même avant que Marie Ière arrive. Les protestants qui ne s'alignaient pas derrière toutes les doctrines de l'Église d'Angleterre, eux aussi étaient prononcés hérétiques et ils devaient aussi être brûlés vifs, et même sous le régime protestant. Et il y a un autre personnage, M. John Rogers, qui est appelé, qui était quelqu'un de très important, il était un des chapelains du roi. Il est appelé par un ami pour dire « Écoute, on fait front commun pour arrêter cette question de brûler vif ceux qui contestent toutes les doctrines de la Réforme. » Et puis John Rogers répond « Écoute, qu'est-ce que c'est brûler par le feu? C'est une douce punition pour un crime aussi grave que l'hérésie. » Eh bien, quelques années plus tard, Marie Ière, qui est couronnée, enclenche le régime catholique et ce monsieur John Rogers est devenu un des dissidents du nouveau régime et est lui-même ensuite brûlé vif au poteau comme hérétique. Alors, je termine la capsule historique et on saute dans notre sujet de Sola Gratia. Alors, si vous voulez tourner dans vos Bibles, on va faire la lecture ce matin de cette lettre de Paul à Tite. On tourne au chapitre 3, à partir du verset 3. Ceux qui n'ont pas leur Bible peuvent suivre à l'écran. Tite, chapitre 3, verset 3. Nous lisons. Ainsi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Béni soit sa parole. Pour retourner pour ceux qui n'avaient pas leur Bible. Sola gratia. Eh bien, vous allez vous dire ce matin pourquoi est-ce important de revoir ou d'entendre un autre sermon sur la grâce. Eh bien, j'aimerais vous convaincre, et à moi aussi, ce matin, de l'importance de repasser la doctrine de la grâce encore et encore dans nos études personnelles, dans nos cultes personnels, dans nos temps de méditation, parce qu'elle est au cœur de l'Évangile. Toutes les couches de notre théologie vont être affectées par notre compréhension de la grâce. Si on chambranle dans cette doctrine, on peut ensuite facilement, très facilement, tordre le sens de l'Évangile sans s'en rendre compte. Et voilà ce qui est arrivé dans l'Église au Moyen Âge et qui s'est transformé en religion tricotée par les hommes jusqu'à ce que les réformateurs sonnent l'alarme. Au début du chapitre, versets 1 et 2, Paul parle des relations des croyants avec ceux du dehors et vis-à-vis les autorités. Puis il enchaîne abruptement avec une description, un rappel de comment nous étions avant. Donc, autour du verset 3 que je veux qu'on se concentre ce matin, qu'on porte nos regards, et de regarder le texte à travers les lunettes de la Réforme, en se demandant, mais quelles étaient les erreurs enseignées avant la Réforme? Et qu'est-ce qui devait être corrigé concernant cette fameuse grâce? Eh bien, de dire que l'Église au Moyen Âge, avant la Réforme, n'enseignait plus le salut par la grâce serait inexact. Ce serait inexact de dire ça. Mais aussi, de notre part, de dire que l'Église du Moyen Âge enseignait le salut par la grâce serait une affirmation incomplète. Et vous avez une citation à l'écran de ce que Martin Luther enseignait. Il enseignait à ses élèves avant d'être éclairé. Et voilà ce qu'il disait concernant le salut des âmes. Hein? Ce n'est pas par mérite, mais par pure miséricorde d'un Dieu fidèle à ses promesses que l'on est sauvé. Mais il faut lire la suite, parce qu'on voit la grâce dans ça. Ses promesses à l'homme qui agit selon ce qui est en lui. Il y avait là une nuance assez importante. En réalité, on le connaît bien, hein? Le réel nœud de l'affaire, le pavé dans la mare hein, que la Réforme a jeté, était le mot « seul », par la grâce « seul », le fameux « sola hein? ». Ce petit mot qui fait toute la différence. L'Église de Rome enseignait et encore aujourd'hui, que le salut est un processus, une dynamique entre la grâce et les œuvres, qui a un petit résiduel en l'homme de bon, un petit résiduel qui pouvait aller se connecter avec la grâce et ainsi débuter un parcours de vie, un processus, une marche qui le mène vers la justification. Je n'ai pas dit sanctification, vers la justification. En d'autres mots, comme on l'a souvent entendu dans le fameux dicton, aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a une partie de bon en l'homme qui peut se mettre en action avec l'aide de la grâce. Et pour rendre ça encore plus officiel et peut-être même plus payant, on allait mettre sur pied des sacrements qui allaient favoriser cet arrimage-là, cet accrochage pour recevoir la grâce et plaçant les personnes progressivement justes devant Dieu, comme les plus jeunes. Inconsciemment, on faisait de l'homme un être qui n'était pas entièrement pécheur, que la dépravation totale n'était pas totale, qu'il y avait encore quelque chose de bon en l'homme qui pouvait recevoir la grâce de Dieu, que nous n'étions pas totalement morts dans nos péchés, mais plutôt paresseux, endommagés, brisés, mais pas morts. Et cela eut des conséquences tragiques pour l'Église dans sa compréhension de la grâce. Si on regarde le verset 3, pour voir comment la réforme allait corriger cela, c'est assez frappant. Dans le verset 3 seulement, on a toute une liste. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, c'est-à-dire aucune intelligence spirituelle, désobéissants, c'est-à-dire rebelles à Dieu, égarés, c'est-à-dire en dehors du sentier de la justice, asservis à toutes sortes de convoitises et de voluptés, c'est-à-dire esclaves de nos propres désirs, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, c'est-à-dire le contraire de ce que représente un Dieu d'amour et du contentement qu'il procure, digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres, on mérite le rejet de la part de Dieu et on est en guerre, on est en compétition avec nos prochains. Voilà ce que nous étions avant. C'est toute une liste, Et ça couvre pas mal tout. Paul n'a pas laissé de place, il n'a pas laissé de place à la bonté, supposément inhérente quelque part dans l'homme. La parole mentionne que nous sommes des pécheurs de la pointe des cheveux jusqu'à l'extrémité de l'ongle de la grosse orteil. Et peut-être qu'il y en a qui n'ont plus ni un ni l'autre. On va dire de la tête aux pieds. En tout cas, ça, on est sûr que tout le monde a une tête ici. Mais encore plus intéressant à noter, c'est que la liste ne vise pas nécessairement nos actions, mais elle fait la lumière sur les penchants de nos cœurs. Il y a une différence importante à ce niveau-là, car la doctrine du péché ne veut pas dire qu'on a commis tous les péchés possibles d'être faits, mais plutôt que le péché affecte tout notre être. Qu'avant de recevoir la grâce, nous étions des êtres totalement vides, vides de tout ce qui peut être bon aux yeux de Dieu. Vides, secs, sec, sec, sec. Est-ce qu'il y en a ici qui, euh, je le confesse, sont comme moi, et qui sont des champions du réservoir à essence presque vide, ou pas mal vide. Tu sais, est-ce qu'il y en a ici qui peuvent dire là, qu'ils se sont rendus à la pompe à essence sur un élan? Tu sais, là, t'embrayes, tu donnes un élan, le moteur arrête, puis tu t'en vas à la pompe, puis le moteur vire plus. Puis là, tu mets le frein. Là, tout le monde pense que c'est un auto électrique. Il n'y avait pas dans le temps. Mais moi, ça m'est arrivé une fois. Tu sais, le « là, « Ça, ça veut dire, quand ça fait ça, là, on est là « Non, « ça veut dire « essence ». C'est ça, hein? Il faut mettre de l'essence. Mais meilleur encore, plusieurs ici connaissent Yvon Saint-Pierre. Mon frère Yvon, qui aime beaucoup la motoneige, on va faire une randonnée assez haut dans le nord. Et on est allé loin. Et puis, on a eu un détour à prendre, le sentier était fermé, tout ça, c'est des choses qui arrivent. Et puis, c'était un temps où il n'y avait pas, puis c'était un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour aller mettre de gaz. En fait, il n'y avait pas. Il fallait vraiment planifier pour revenir avec ce qu'on avait comme réservoir. On était les deux ensemble, c'est la même motoneige. Et puis là, la tombée du jour s'en venait, il était 5h30, on était en février. Puis là, je voyais le « Là, je priais, il faut qu'on se rende, ça ne me tente pas de marcher, il faisait froid. Et puis, on arrive à la destination, on arrive où est-ce que l'auto t'a garé la remorque. J'ai même pas osé arrêter le moteur, j'ai dit, il ne repartira pas. On l'embarque sur la remorque. Là, j'arrive à mettre la main, non, il n'a pas arrêté, tout seul, mais je l'arrêtais avec la clé. Et puis, je rouvre le bouchon à essence, tu sais, pour regarder, pour voir qu'est-ce qui pouvait rester, hein. Je voyais rien. Puis là, j'ai dit à Yvon, « Hey Yvon, on s'est rendu ces vapeurs. » Bon, Yvon, il se penche, puis il met le nez ou le trou du gaz, hein, puis il me dit, ceux qui le connaissent, hein, il dit, « Je pense pas que tu étais ces vapeurs, on était sur la grâce. » Il y avait même plus de vapeurs. Et c'est ce qu'on est, vide, sec, même pas de vapeur, c'est ce que nous étions. Tout ce que nous faisons, disons, voyons, sentons, entendons, pensons, est corrompu à cause de l'état de notre cœur. Et voilà ce qui nous caractérise comme êtres vivants habités par le péché. Le prophète Ésaïe l'a si bien décrit, hein? Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Tout est contaminé, tout est souillé, mes amis. Si on n'a pas une solide compréhension de la doctrine du péché, nous allons inévitablement distorsionner la doctrine de la grâce seule. Et on va faire des contorsions avec ce que veut vraiment dire recevoir la grâce de Dieu. Et on va progressivement croire que l'on travaille avec la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu n'est pas l'unique ingrédient de notre salut. La véritable compréhension du péché avant la réforme avait été perdue et tout le reste avait complètement déraillé. Et c'est encore le même problème aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Vous savez, il y a une statistique. Eh oui, c'est encore aux États-Unis, bien sûr. Qui révèle que, c'est bien ça, 52 % ils ont recensé chez les protestants, les gens là, qui ont confession protestante, toutes dénominations confondues, 52 % des protestants croient que les œuvres ont une part dans notre salut. C'est inquiétant, hein? Ça, le 52 % c'est une majorité. Des croyants de confession protestante, qu'on pourrait dire, sont comme dans le même bateau que les religieux du Moyen Âge. Puis il serait intéressant de savoir combien il y en a dans ces 52 %-là qui sont assis sur un banc d'église le dimanche matin. Qu'est-ce qu'ils reçoivent comme enseignement? C'est un problème aujourd'hui. Et c'est un problème dans le cœur de tout être humain depuis sa naissance. Un pasteur qui raconte que Il avait été, justement, on parlait de funérailles ce matin qu'on a eu hier. Après une funéraille, il y a un pasteur qui était avec son jeune garçon de 5 ans et qui avait cette discussion-là après, parce que là, il avait eu un cercueil, il avait vu la dépouille et tout cela. Puis ça peut être un petit peu marquant pour un enfant. Fait que le pasteur voulait en jaser avec son enfant. Et il discute avec, il s'appelle Bobby, et puis il dit, « Bobby, il dit, où vont les gens lorsqu'ils meurent? » Et Bobby, il dit, sans hésitation, il dit, « Au ciel, papa! » Ah, il dit, « Bonne réponse, bonne réponse. » Puis il dit, « Qui va au ciel, Bobby? » Du tac au tac. « Bien, les chrétiens. » Hey, là, le pasteur, il était content, il dit, « Mon fils va être bon à l'école du dimanche. » Hein? Fait que là, il a pensé y aller avec une question complémentaire, la question bonus. Hein? Là, il demande, il dit, « Bobby, il dit, comment est-ce qu'on devient chrétien? » Bien, il dit, « Papa, voyons. » Il dit, « C'est en obéissant à mes parents, et en faisant les prières avant de manger, en allant à l'église le dimanche, en lisant ma Bible, puis en faisant ma prière avant de me coucher. » C'est comme ça qu'on devient chrétien. Alors, on voit, hein, on voit que c'est un problème de cœur et ça fait partie de notre compréhension du péché originel qui est venu s'installer dans le cœur de chaque être humain. Et on voit que ce n'est pas uniquement un problème pour les hommes savants. Hein? Tout comme ce pasteur qui est un parent, hein, qui ont souvent comme prière à Dieu par rapport à leurs enfants, hein, qui prient Dieu de sauver leurs enfants. On fait ça, hein, les parents. On prie pour le salut de nos enfants. Et c'est probablement une des prières la plus fréquente qu'on a. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que dans les moments qui vont suivre cette prière-là, hein, on commence automatiquement à formuler des plans pour essayer d'atteindre l'objectif. L'objectif de cette requête-là qu'on a placée devant Dieu. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ça? C'est pas mauvais en soi, mais il y a quelque chose dans le fond du cœur qui révèle ça. Et on doit lutter constamment pour saisir, vraiment saisir, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est complètement perdu. Le problème est que nous désirons tous nous réparer nous-mêmes. Hein? Quelqu'un a dit que la grâce est un problème en grande partie pour les maniaques du contrôle. Hein? On est tous un peu en partie, ou en grande partie, des maniaques du contrôle. On est des pécheurs repliés sur nous-mêmes, obsédés par les façons de se sortir de notre situation. On veut être l'auteur des solutions avant Dieu. Pas pour rien qu'on aime autant se féliciter les uns les autres. C'est encourageant, mais on aime ça faire ça. Ça nous fait du bien. On veut se féliciter le plus souvent possible. Hein? Des prix, des trophées, des médailles, des bourses. Hey, saviez-vous ça? En Alabama, il y a un temple de la renommée pour les vendeurs d'assurance. Il y a de tout, hein? On veut féliciter le plus souvent possible. La réforme était un besoin qui continue encore aujourd'hui d'être un besoin dans nos vies et dans l'Église. Alors, il est primordial, frères et sœurs, de maintenir une saine doctrine, une saine compréhension du péché. Sinon, on manque la cible dans notre compréhension de la grâce seule. Et je veux me diriger vers la deuxième portion de notre texte pour terminer, les versets 4 à 7. Phrasé pour mieux cibler le message que j'ai ce matin. Versets 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, selon sa miséricorde, qu'il a répandue sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Notez bien ici que c'est Dieu qui s'est approché lui-même du pécheur. Sa bonté et son amour s'est manifesté et Jésus est apparu. Lorsque Jésus est apparu, la grâce est apparue. Et Paul fait lien plus tôt dans la même lettre à Tite, au chapitre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » La grâce manifestée. La grâce de Dieu dans la chair, en la personne de Jésus. Et il apporte le salut. Il apporte tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de processus, pas de démarche. Quand on reçoit la grâce, on reçoit Dieu et Christ en est le centre. On a même au verset 5, la troisième personne qui est mentionnée, qui fait aussi partie de cette communion avec nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, lorsque l'on reçoit la grâce à travers Jésus-Christ. Voilà comment Dieu sauve le pécheur. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à contribuer. Ne dérobons rien de la gloire, de la grâce que Christ apporte entièrement avec lui lorsqu'il se manifeste au pécheur. L'être humain souillé par le péché originel n'a en fait rien de bon qui pourrait participer au chef-d'œuvre de notre rédemption. C'est un chef-d'œuvre et on ne peut pas toucher à ça. On n'amène rien à la table. On n'a rien à offrir. Jésus s'est entièrement donné et il doit être entièrement le Sauveur. Il n'y a rien venant de nous. Oui, mais là, il y en a qui vous... Stéphane, t'oublies une chose. Tu sais, la personne doit au moins faire l'effort de prendre la décision d'accepter Jésus. Il faut qu'il prenne cette décision-là. Il y a quelque chose à faire, n'est-ce pas? On entend ça souvent. On dit ça souvent. Eh bien, voyez, pensez-y, on prend la décision de suivre Jésus, mais on prend cette décision-là basée sur quoi? Basée sur quoi? Basée sur le fait que d'abord, on a avant tout dû reconnaître dans nos têtes, là, dans notre esprit, là, à quelque part, il a fallu reconnaître qui est vraiment Jésus-Christ. Il a fallu reconnaître ça. Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, le Christ, le Messie. Sans voir ça, je ne peux pas prendre de décision. Je ne peux pas avoir ce processus-là, ce déclenchement-là. Et voici la question que Jésus pose à ses disciples dans Matthieu chapitre 16, les versets 16, 15 et 17. Voici la question. « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, hein? Moi, je m'en réponds. Simon-Pierre est là, il répond. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, lui, qui reprend la parole, il dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. » La réponse de Pierre ne venait pas de lui. Ça ne venait pas de lui. Même si Pierre avait pris la décision de suivre Jésus, sa reconnaissance du Christ ne venait pas de lui. Ça prenait ça. Aucun mérite. Aucun mérite. Et je vous dis, voilà ce que je crois aussi, hein, c'est que Pierre était 100% libre de répondre autre chose. Il était 100% libre de répondre autre chose. Et Dieu le Père était 100% souverain dans sa révélation à Pierre. Je termine avec ceci. Pour nous tous ici qui avons reçu miraculeusement cette grâce, restons vigilants de nous garder d'y ajouter quoi que ce soit. Quoi que ce soit en cours de route et de ne point mener personne dans le sentier de la religion. Puis pour ceux et celles qui cherchent l'assurance de la vie éternelle, eh bien, quelle merveilleuse nouvelle! Il n'y a rien à faire! En fait, tournez le dos à tout ce que vous avez accompli par le passé, le bon ou le mauvais, et soyez entièrement sauvés par la grâce qui s'est entièrement manifestée à la personne de Jésus. Prions. Dieu, on voit que même depuis le Moyen Âge, on lutte et on lutte contre le mensonge. Le mensonge qui s'est infiltré dans la création lorsque le chef du mensonge s'est révélé et a entraîné l'homme, l'humanité, dans cet état de pécheur. Et il n'y a plus rien en nous qui est bon. Mais Seigneur, quelle grâce tu nous fais! Quelle grâce tu nous fais que toi qui es descendu, c'est toi qui s'est approché de nous et c'est toi qui s'est révélé, car nous, on ne pouvait rien faire de tout cela. Alors Seigneur, notre prière ce matin, c'est de garder nos cœurs centrés sur toi, Jésus-Christ, la grâce manifestée. Et que tu puisses, Seigneur, toucher encore des cœurs avant ton retour, avant, Seigneur, cette colère qui va s'abattre sur ce monde qui te rejette. Viens chercher le plus grand nombre, Seigneur. Révèle ta grâce au plus grand nombre. Alors, Seigneur Dieu, fais-nous du bien cette semaine. Accompagne-nous, guide-nous, porte-nous, Seigneur, si nécessaire, dans nos afflictions, dans nos épreuves, afin qu'on puisse vraiment saisir à quel point ta grâce est grande, à quel point ton amour est insondable. C'est dans le beau et le puissant nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Bonne semaine à tous.